L'évangile de ce sixième dimanche de Pâques sont centrés sur une valeur fondamentale, comme le disait le Père Augustin tout à l'heure. Cette valeur, c'est l'amour. Mais nous avons beau savoir qu'elle est au cœur du message de l'évangile, la mise en pratique de cette valeur s'avère diablement difficile, si je puis dire. D'ailleurs, si vivre cette valeur d'amour était si facile que ça, si nous, chrétiens, l'avions mise en pratique depuis 2000 ans, le monde serait certainement très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Si nous, les disciples du Christ, vivions réellement l'amour en Église et au sein du monde, de la façon dont le Christ nous l'a enseigné, alors, en nous voyant, les gens diraient: ceux-là, c'est sûr, ce sont des chrétiens. Je le vois bien à la façon dont ils aiment vraiment. Et ils changeraient, eux aussi, car l'amour, c'est contagieux. Mais de quel amour parle-t-on? Rappelons-nous que du temps des Grecs, il y avait trois mots qui étaient employés pour exprimer l'amour: Eros, philia, agapé. Eros, le désir du bien sensible, mais aussi de tout autre objet digne d'attachement, la beauté par exemple. Le mot érotique en français vient de là. Philia, l'amitié, l'amour désintéressé qui prend soin de l'homme, de l'ami, de la patrie. Et puis agapé, l'amour inconditionnel de l'autre, l'amour divin. Dans la tradition chrétienne, c'est l'amour théologal, c'est-à-dire l'amour qui a Dieu pour objet et qui nous est donné par la grâce si nous avons la foi. Dans le texte de Saint Jean que nous venons d'écouter, ce mot agapé, c'est celui-là qui est utilisé. D'une part pour désigner l'amour de Dieu, mais aussi pour désigner l'amour du prochain. Le terme agapé peut au moins nous laisser entrevoir toute une dimension de bienveillance, de sympathie, je dirais même de tendresse. Mais nous sentons bien qu'il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer cette réalité indicible de l'amour de Dieu à l'origine de toute forme d'amour. Alors, il nous faut humblement reconnaître nos difficultés à porter ce message d'amour et surtout à le vivre. Certains d'entre nous peuvent se dire: c'est bien beau tout ça, ces messages de paix et d'amour, ça fait partie de ce qu'on vient écouter à la messe. Mais une fois reparti dans la vie de tous les jours, c'est plus la même chose. On se dit: je dois me battre, la vie professionnelle est dure et sans pitié. Il faut que je garde la tête hors de l'eau et pas me laisser enfoncer, soit par des collègues, soit par des supérieurs hiérarchiques ou des concurrents. Et dans la vie privée, c'est pas facile non plus. Certains ont vécu des trahisons de la part d'amis en qui ils avaient confiance. Pour ceux qui vivent en couple, ils s'aperçoivent un jour ou l'autre que leur conjoint n'est pas parfait, que les enfants posent peut-être certains problèmes, ou bien que la famille n'est pas forcément facile ou agréable à fréquenter. Dans ces conditions, difficile d'appliquer cette injonction, ce commandement du Seigneur: aimez-vous les uns les autres. Alors face à cette difficulté, on peut facilement se perdre dans des attitudes contradictoires. Une première tentation, ça consisterait à séparer ma vie en deux. Le temps du dimanche, où je m'efforce de mettre en pratique les valeurs chrétiennes, et puis, bon, le reste de la semaine, hein, où je vais me battre selon les codes de la société. C'est ce que nous pouvons effectivement être tentés de faire parfois, car ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de s'afficher comme chrétien dans certains contextes. Mais reconnaissons qu'on ne peut pas vivre sainement ainsi coupé en deux. Une autre tentation, ça serait de cultiver une vision trop idéalisée du monde et de la société. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, vous savez, selon ce mot de Jean-Yann. Hein. Mais nous nous exposons ainsi à de graves désillusions. crainte de l'hostilité de l'extérieur, alors on pourrait être tenté de se replier dans le confort d'une petite communauté chaleureuse, mais qui risque de se couper du monde et de végéter si elle ne compte que sur ses propres forces. Sans compter que même dans une petite communauté, des rivalités, des conflits peuvent émerger. Alors, comment faire ? Comment tenir le juste milieu, la voie médiane, entre différents extrêmes ? Eh bien, en tant que chrétiens, nous avons déjà le recours à la prière. Il nous est toujours possible, en cas de difficulté, de nous tourner vers Dieu. Mais que lui dire ? Eh bien, d'abord, le remercier, ne serait-ce que pour le fait d'être vivant. Et puis ensuite, reconnaître humblement notre incapacité à nous tenir sans cesse à ce haut niveau d'exigence de l'amour, notre difficulté à faire face à certaines situations auxquelles nous sommes confrontés. Oui, il m'arrive de me mettre en colère. Oui, cette personne m'agace. Oui, tel autre me sort par les yeux. Mais, nous dit saint Paul, c'est dans ma faiblesse que le Christ va me donner sa force. C'est dans mes manques, dans mes fêlures, qu'il va déployer sa puissance. Et puis, en troisième lieu, nous pouvons nous déprendre, nous rendre disponibles, justement, à cette présence de Dieu en nous, pour qu'il puisse agir en nous, lui qui est tout amour. Ainsi, nous rejoindrons saint Paul, qui s'écriait dans l'épître aux Galates, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Par rapport à la première tentation, qui consiste à vivre en quelque sorte une double vie, sachons que le Christ a anticipé cette difficulté en nous signifiant que par notre baptême, nous n'appartenons plus au monde, mais que pourtant nous sommes dans le monde. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. C'est dans saint Jean. Il nous faut donc agir dans le monde en le reconnaissant tel qu'il est, tout en maintenant haut et fort dans notre pratique nos valeurs de chrétiens, en particulier l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Par rapport à la seconde tentation, celle du repli sur une petite communauté confortable, retenons que Jésus ne nous demande pas d'être des bisounours attendrissants. Celui qui aime ne dit pas oui à tout, ne cède pas sur tout, mais au contraire, est suffisamment exigeant pour que l'autre puisse grandir et exprimer le meilleur de lui-même. Les parents et les éducateurs le savent bien. À nous donc d'être ouverts à l'extérieur, à la fois ouverts et à la fois exigeants, tout en aimant. Demeurez dans mon amour, nous dit Jésus aujourd'hui. Le verbe demeurer, il est très fort. Il suggère une notion de durée. Demeurer, c'est pas faire une simple apparition, c'est pas passer par là rapidement. Demeurer, c'est s'arrêter pour rester dans la demeure. Jésus demande à ses disciples, et donc à nous, de rester dans sa demeure. Mais sa demeure, ce n'est pas un temple de pierre. Sa demeure, c'est notre cœur de chair. Demeurer dans l'amour du Christ, c'est revenir finalement au plus intime de notre intimité, dans la fine pointe de notre âme, comme disait sainte Thérèse d'Avila. C'est là que nous pouvons rencontrer Dieu. Frères et sœurs, pour accomplir le commandement d'amour du Christ, il nous faut d'abord demeurer dans son amour. C'est tout ce que nous pouvons nous souhaiter mutuellement. Amen.